BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
8h42, c'est parti pour Good Morning Market. On vous accompagne jusqu'à 9h15 avec bien sûr l'ouverture du CAC 40 à 9h. Beaucoup de publications d'entreprises arbitrées ce matin. Nous verrons cela avec Mathias Desmarais juste après l'ouverture des marchés depuis Odo BHF avec notamment des publications qui dans l'ensemble rassurent avec bon nombre de groupes qui revoient à la hausse leurs prévisions. Juste en attendant, c'est le club de la bourse qui s'ouvre avec notamment nos deux invités ce matin.
Good Morning Market sur BFM Business.
En plateau, Guillaume Loewe, analyste et gérant chez OptiGestion. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous ce matin en compagnie de Vincent Juvins qui nous accompagne depuis ING, responsable de la stratégie d'investissement donc de ING. Merci également de nous accompagner. Bonjour. Vincent, beaucoup de sujets à aborder ce matin avec donc hier soir la Fed, Kevin Warch, on en parlera dans un instant, les GAFAM qui publient leurs résultats, Microsoft, Meta, puis ce soir on aura Apple et Amazon, et puis dans le même temps on a à nouveau des inquiétudes en ce qui concerne le conflit en Iran avec un baril de pétrole qui progresse à nouveau ce matin au-delà des 90 dollars. Bon, commençons peut-être par les résultats d'entreprise, Guillaume, avec hier soir Microsoft qui rassure et puis à l'inverse Meta qui déçoit. C'est un petit peu deux salles, deux ambiances.
Alors, deux salles, deux ambiances, mais on voit une forte quand même accélération du chiffre d'affaires pour les deux entreprises. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, que ce soit Meta ou Microsoft. Par contre, ça, c'est pas tout à fait fait de la même manière. Il y en a une, c'est au détriment de la marge, c'est le cas de Meta, alors que Microsoft a été, on va dire, un petit peu plus mesuré ou raisonnable dans ses dépenses IA. Et du coup, la marge a été à peu près préservée. La très bonne nouvelle, c'est que surtout, elle commence à nous parler de monétisation de l'IA, notamment avec le nombre d'abonnements chez Copilot. Et ça, c'est une nouvelle qui vient vraiment rassurer le marché. Sur Azure, ça a aussi été très bon. La société nous explique qu'elle en a d'ailleurs sous le pied. C'est-à-dire qu'elle aurait pu faire plus que les 39% de croissance attendue. C'est juste qu'ils étaient limités par la puissance de calcul parce que Microsoft doit se débatouiller sur un espèce de triptyque. C'est puissance de calcul pour sa partie R&D, puissance de calcul pour sa location de capacité de calcul ou capacité de calcul pour son copilote à elle. Voilà. Donc, elle doit
et
un
le titre hier soir était en hausse de quasiment 9%. Alors, ça sera à confirmer tout à l'heure à l'ouverture de Wall Street à 15h30. Une forte hausse à mettre en relief au parcours quand même plutôt compliqué de Microsoft ces derniers mois. Le titre perd quasiment 30% depuis ses plus hauts et depuis le 1er janvier, on est à moins 18%.
Oui, c'est ça. Alors, ça vient rassurer les marchés. C'est une bonne nouvelle pour l'investisseur. Alors qu'à l'inverse, donc, pour parler de Meta, ici, c'est pareil, il y a une très très bonne dynamique commerciale chez Meta. On le voit, le nombre de pubs en hausse. Ils ont réussi à augmenter un peu les marges. Le taux d'adoption, de clics, etc. est meilleur. Mais quand on regarde en face les coûts vont beaucoup plus vite que les profits. Et c'est pour ça que le titre, je crois, perdait 7-8% en préouverture.
Voilà, bien sûr, tout ça sera confirmé à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, avec à suivre ce soir, après la clôture, deux publications, Apple et Amazon, deux publications qui vont clôturer le bal des GAFAM, puisque souvenez-vous, la semaine dernière, il y a quasiment une semaine, c'était Alphabet, la maison mère de Google. Votre lecture depuis ING, Vincent Juvins, par rapport à ces GAFAM qui ont suscité beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de volatilité sur les marchés, au point même que hier, le Nasdaq 100 est rentré en zone de correction, c'est-à-dire une baisse de 10% depuis ses plus hauts.
Bah écoutez, je souscris à ce qui vient d'être évoqué sur les résultats, en tout cas de Meta et de Microsoft, qui viennent confirmer ce qu'on a pu voir dans d'autres dossiers, d'ailleurs pas uniquement au niveau des softwares ou au niveau des hyperscalers, mais on a vu que sur les semi-conducteurs, les entreprises coréennes qui ont rapporté ont également rapporté des résultats qui étaient très solides. On a des marchés qui sont aujourd'hui drivés par la peur plutôt que par les fondamentaux. Objectivement, que ce soit sur la monétisation de l'IA, que ce soit sur les perspectives de demande et de sous-capacité, en tout cas en termes de production de mémoire et de semi-conducteurs, on est plutôt fondamentalement rassuré, alors que les marchés, en tout cas, restent fébriles par rapport à ces valeurs. Donc, j'ai envie de dire, retournons-en aux fondamentaux qui sont plutôt solides. On a des valeurs qui sont par ailleurs relativement faiblement valorisées. On l'a vu aux États-Unis où on a plutôt une baisse des valorisations depuis le début de l'année. On le voit globalement, même si je regarde un secteur technologique au sein du MSCI ACWI, on le voit encore plus évidemment dans les marchés asiatiques où les semi-conducteurs se traitent à même pas 5 fois les bénéfices attendus. Donc on a des valorisations qui sont actuellement particulièrement attractives. Je pense que ça peut amener certains investisseurs à revenir sur certains dossiers. Nous restons en tout cas chez ING plus que jamais convaincu dans l'opportunité de rester investi de manière diversifiée dans le secteur technologique.
Des opportunités également du côté d'OptiGestion, quand vous regardez les GAFAM, les niveaux de valorisation?
Oui, je souscris exactement aussi à ce qui vient d'être dit, hein, sur les multiples sont assez faibles, même si on voit que si on prend le free cash flow, les multiples sont un petit peu remontés. Mais quand on regarde les projections futures des GAFAM, c'est passager, hein, puisqu'on va revenir à des free cash flow très importants dans les deux trois années suivantes.
On est vraiment dans une semaine qui est très dense en termes d'actualité, que ce soit bien sûr avec la Fed, les résultats d'entreprise, mais surtout dans ce segment technologique avec, il faut se souvenir, en début de semaine, CXMT qui est rentré en bourse à Shanghai, qui est quand même devenue la plus grosse société de Chine continentale. Dans le même temps, SK Hynix hier qui a trébuché de près de 20% en séance après la publication de ses résultats. Et cette nuit, c'est Samsung qui a publié ses résultats, Guillaume Loewe. Alors bon, Samsung s'en tire plutôt bien. Le titre perd 1,3%. Ce matin du côté de Séoul.
Oui, on va dire ça. On va dire que bon, elle a quand même bien corrigé sur les séances précédentes. Ce qu'il faut retenir quand même sur la mémoire, c'est que c'est un marché qui est très très cyclique. C'est pour ça qu'on voit des grosses variations sur les cours et que le fait qu'il y ait un troisième acteur va entraîner une pression sur les marges. Les marges en ce moment de SK Hynix et Samsung sont extrêmement importantes. Le fait qu'il y ait un troisième arrivant va entraîner, disons, plus rapidement une baisse des marges. Donc si je mets ça un peu en opposition avec des business un peu plus traditionnels, si je prends les résultats de Schneider ce matin, à mettre un peu en comparaison avec le cours de Schneider, c'est beaucoup moins volatile, mais parce que le business de Schneider aussi est moins cyclique. Et donc il faut faire attention un peu quand on investit dans l'IA à se renseigner sur ce qu'on achète. Les mémoires, c'est très cyclique. Schneider, c'est un business beaucoup plus résilient. Donc vous allez avoir effectivement beaucoup moins de risques en vous exposant à l'IA à travers Schneider.
Jusqu'ici, tout va bien. Quand on regarde les résultats, certes, SK Hynix est un petit peu en dessous des attentes, mais on est quand même sur une progression des profits qui est juste spectaculaire. Quand on regarde ce qui se passe du côté de Samsung cette nuit, là aussi, on a des résultats qui sont juste records. Ça sert à rien de calculer par rapport à l'an dernier, parce qu'on est sur des taux de croissance qui sont juste hallucinants. La question maintenant, c'est les trimestres à venir. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, Vincent Juvins, avec aujourd'hui Shanghai ou Langsheng qui nous dit on va faire des machines un petit peu comme ASML. Alors certes, pas au niveau d'ASML, sur la gravure, ça ne sera pas dans la même finesse. Néanmoins, ça fait bouger ASML en début de semaine. Quand vous regardez CXMT, vous dites la croissance là, de ce trimestre, elle est durable. Comment aujourd'hui on modélise tout ça dans les portefeuilles, sachant qu'on est sur un marché qui est très momentum?
Oui, alors le momentum est clairement cassé du fait de l'arrivée de ces nouveaux entrants. Je pense que comme ça vient de justement évoquer, on va voir une pression à terme sur les marges. Attention, ne l'exagérons pas non plus. On voit évidemment qu'ASML conserve le leadership, en tout cas dans les machines les plus pointues. Mais enfin, quelque part, d'un point de vue économique et d'un point de vue marché, certes, c'est un test en tout cas pour ASML, c'est un test pour SK Hynix de voir des nouveaux arrivants sur ce marché. Mais enfin, plus de compétition, c'est finalement des prix en baisse, ce qui devrait quelque part aider à déployer cette thématique IA encore davantage, et plus de compétition, c'est davantage d'innovation. Donc quelque part, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop inquiet par rapport à l'arrivée de ces nouveaux arrivants sur ce marché. Ça va permettre d'accélérer encore, à mon avis, le déploiement de l'IA. On est passé en peu de temps d'une thématique où on disait il faut que le plus grand nombre utilise les outils d'intelligence artificielle, à dans de nombreuses entreprises tenter parfois de freiner l'usage de cette intelligence artificielle parce qu'elle devient trop coûteuse à utiliser. Donc aujourd'hui, si on a des nouveaux acteurs qui permettent justement de démocratiser l'accès à cette IA pour le plus grand nombre, je pense qu'il faut s'en réjouir. Dans les deux cas, ASML ou SK Hynix, l'avance qu'ils ont à la fois dans les high bandwidth memories pour SK Hynix ou dans les machines lithographie les plus avancées est actuellement pas challengée. On le verra évidemment dans les prochaines années. Donc, je pense qu'il faut pas jeter avec le bébé de bain ce que font les marchés actuellement. Et à plus long terme, en tout cas pour moi, l'arrivée de ces nouveaux entrants pérennise en tout cas cette idée que l'IA est une thématique faite pour durer et qu'on est sur une tendance structurée dans ce qui nous concerne. Par contre, il était important, et c'était bien d'évoquer le cas de Schneider à l'instant, de se rendre compte que cette thématique IA, il faut pouvoir la jouer de manière diversifiée, qu'elle se joue au niveau des semi-conducteurs, qu'elle se joue aussi au niveau des software, qu'elle se jouera demain à nouveau de plus en plus au niveau du hardware. On sent évidemment que le tout, la capacité de calcul dans le data center et des unités finalement individuelles, laptop ou device, qui n'ont plus de capacité de calcul, c'est sans doute pas le modèle qui sera retenu. On repense à intégrer une capacité de calcul plus importante, notamment au niveau des devices, et on pourrait revoir un âge d'or de l'hardware à un moment. On a Apple qui publie ce soir, on verra un petit peu ce qu'il en est, mais attention à ne pas négliger. Et puis, n'oublions pas que le nerf de la guerre dans le déploiement de l'IA, c'est l'énergie, une thématique dans laquelle notamment Schneider était très, très, très actif aussi. Il faut pouvoir, au niveau de l'infrastructure, pouvoir accompagner ce développement. Donc, il y a vraiment moyen de l'aborder de manière diversifiée, sans être tributaire du secteur peut-être le plus cyclique dans l'ensemble, que sont les semi-conducteurs, et de pouvoir profiter de ces thématiques de manière diversifiée.
Schneider Electric qui gagne 6% en préouverture. Nous verrons tout cela juste après l'ouverture avec Mathias Desmarais de Oddo BHF. Est-ce que aujourd'hui le contexte et les incertitudes par rapport à cette concurrence chinoise vous donne envie de revoir un petit peu les portefeuilles, Guillaume Loewy?
Non, pas vraiment. Et surtout, pour les nouveaux clients, je profiterai de la baisse pour construire un peu des nouvelles lignes, notamment ASML, parce qu'effectivement, je trouve que la baisse d'ASML est injustifiée, parce que pour le coup, ils sont concurrencés sur leurs anciennes machines, en fait, d'anciennes générations, et pas du tout sur les nouvelles générations. Donc, je garderai ASML en tête de liste sur les semi-conducteurs, TSMC avec. Je profiterai, disons, de la baisse pour me renforcer dans ces valeurs
qui ont souffert, tout comme l'indice SOX, l'indice des semi-conducteurs qui a encore perdu plus de 5% hier soir à la clôture. Il nous reste 2 minutes, Vincent Juvin, pour parler de la Fed quand même. C'était un élément majeur hier qui a d'ailleurs fait basculer Wall Street dans le rouge. Très clairement, le Dow Jones a perdu plus de 2%, moins 1,7% pour le Nasdaq. Et donc, je disais, le Nasdaq qui est rentré en zone de correction. Kevin Warsh qui n'a pas remonté les taux. Il y avait des inquiétudes par rapport à ça. Néanmoins, il n'a pas du tout rassuré parce que Kevin Warsh ne donne plus du tout de prévision. Et donc, il a laissé un petit peu le marché dans le flou.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a à la fois des pressions politiques dans Donald Trump qui rappelle par voie de presse qu'il entendrait avoir des taux plus bas. Il y a une réalité économique qui est finalement un risque inflationniste toujours présent avec une situation évidemment fébrile au Moyen-Orient et une économie résiliente, mais néanmoins avec quelques éléments de faiblesse. On l'a vu sur les commandes de biens durables cette semaine. On l'a vu avec le marché de l'emploi dernièrement. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de politique monétaire ou de mouvement de politique monétaire facile à faire pour l'instant. Et Kevin Warsh, évidemment, contrairement à son prédécesseur, se refuse à nous fournir de la forward guidance. Tout au plus, nous dit-il, qu'il reste évidemment focalisé sur l'inflation et qu'il ne transigera pas et qu'il prendra les mesures qui s'imposent pour la combattre et que ces mesures c'est pas uniquement évidemment le taux directeur. Alors on ne sait pas de quelle autre mesure évidemment il parle, mais évidemment il y a deux outils majeurs pour la Fed, c'est le taux directeur et c'est le bilan de la Fed. On sait que Kevin Warsh est opposé à l'expansion du bilan de la Fed. Celui-ci a plutôt eu tendance à baisser ces derniers mois et ces derniers trimestres. Il pourrait peut-être accélérer les choses dans ce domaine-là et on voit en tout cas que la réaction a été surtout sur la partie longue de la courbe des taux hier. Donc, quelque part, on pourrait imaginer que les ajustements de bilan soient partie de l'équation, en tout cas, de resserrement monétaire qui pourrait être réalisé si l'inflation devait, en tout cas, rester élevée.
En tout cas, il y avait 3 voix dissidentes. Vincent Juvin, ce n'est pas arrivé depuis 2016. C'est quand même à noter.
Oui, tout à fait, mais il est clair qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver un consensus dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, que ce soit sur la tech qu'on vient d'évoquer, mais également sur la politique monétaire à mener dans un contexte où on a objectivement des signes de ralentissement sur l'économie, mais on a toujours ce risque d'inflation à importer qui est tout à fait significatif et qui est réévalué. Et tous les 2 jours, tantôt on a un cessez-le-feu, tantôt on a une réescalade. C'est vrai que c'est difficile en tant que banquier central de se positionner dans ce contexte-là.
Et tout cela, bien sûr, a eu un impact sur le marché obligataire avec, vous l'avez souligné, un 30 ans qui était sur des plus hauts de 2007, au-delà des 5,22 quand le 10 ans américain était au-delà des 4,69. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin. Merci. En direct. Merci. Guillaume Loewy en plateau, analyste financier et gérant chez OptiGestion et Vincent Juvin, responsable de la stratégie d'investissement chez ING. Très courte pause, on se retrouve dans un instant, il sera 9h, l'ouverture des marchés européens avec donc une avalanche de résultats à arbitrer. On fera bien sûr vivre tout cela sur BFM Business, on est en direct jusqu'à 9h15. Et puis la séance à suivre, bien sûr, sur BFM Business, dans BFM Bourse, avec Antoine Larrigaudry, ce soir, dès 17h30, pour refaire la séance.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Moine.
8h59, dans une poignée de secondes, l'ouverture des marchés européens. Une séance très chargée, c'est la plus grosse séance de la semaine à Paris, mais également bien sûr sur les principaux indices en Europe, avec énormément de résultats à arbitrer. Lendemain de Fed également, on en parlait il y a un instant dans le club de la Bourse. Tout cela n'a pas aidé Wall Street hier, avec donc un Dow Jones qui a perdu plus de 2% à la clôture. Quand le Nasdaq a cédé 1,7%, le Nasdaq Composite, le Nasdaq 100, avec la baisse d'hier, est même rentré en zone de correction, c'est-à-dire un repli de 10% depuis ses plus hauts. Dans le même temps, vous avez un conflit qui continue de se tendre en Iran, avec notamment plusieurs tirs qui ont été envoyés de la part de l'armée américaine. Tout cela a un impact très clair quand même ce matin sur les cours du pétrole, puisque le baril de Brent gagne plus de 2,4% à l'instant, au-delà des 92$. Le WTI est à 85$. Hier soir, les GAFAM ont donc publié leurs résultats. En tout cas, c'était le cas pour Microsoft, qui était donc en très forte hausse, quand du côté de Meta, la maison mère de WhatsApp ou encore Facebook et Instagram, on a des résultats qui ont été plutôt mal arbitrés. Le titre était en baisse de plus de 7% en après-bourse. Bien sûr, tout ça, ça sera confirmé tout à l'heure à l'ouverture de Wall Street. Et puis ce soir, pour enfoncer le clou et clôturer le bal de ces GAFAM, vous aurez les résultats d'Apple ou encore d'Amazon. Il est pile 9h, c'est donc l'ouverture du CAC 40. Et donc un indice qui ouvre en baisse. Allez, c'est stable. Stable CAC 40, parfaitement. 8410 points ce matin à l'ouverture. Même tendance du côté de l'Eurostoxx 50. Il fera bien sûr plusieurs secondes, plusieurs minutes avant que la situation se décante, dans le sens où vous avez donc une dizaine de sociétés qui ont publié leurs résultats entre hier soir et ce matin. Et comme vous l'avez pu le voir ces derniers jours, ces dernières heures, avec notamment Hermès qui a perdu 10%, il y a toujours beaucoup de volatilité. Ça se passe très bien pour Vinci. On en reparlera dans un instant. Plus 5% malgré une baisse du trafic sur les autoroutes. Vous avez un groupe qui est très résilient au premier semestre. 124,60€ pour ce titre Vinci, suivi de Schneider Electric qui revoit à la hausse ses prévisions pour la deuxième partie de l'année. 270€ pour Schneider Electric. Bouygues également, qui a publié ses résultats ce matin, gagne plus de 4% à 48,15€. Les bons résultats de Vinci profitent à Eiffage qui gagne plus de 2%. Veolia, qui a revu ce matin à la hausse ses prévisions pour la deuxième partie de l'année, gagne un peu plus de 1%. À l'inverse, c'est compliqué pour Stellantis, avec un résultat opérationnel sous les attentes au premier semestre. Moins 5% pour Stellantis, qui met très clairement en danger les 5€. On est pile sur ce niveau, 5€ pile pour Stellantis. Capgemini, qui gagnait plus de 5%, perd 0,3%. Capgemini qui a publié ce matin ses résultats. Dans le SBF 120, a souligné FDJ United qui perd plus de 6%. La Française des Jeux qui a publié ses résultats hier soir. Un groupe qui revoit à la baisse ses résultats pour la deuxième partie de l'année. La fiscalité qui pèse sur les perspectives de FDJ. 21,48€ pour ce titre. Et puis enfin, un dernier mot de Air France KLM qui gagne 0,3%. Forte baisse, bien sûr, des résultats avec un coût du pétrole qui a plongé le bénéfice de plus de 70% au deuxième trimestre. Et donc, le CAC 40 qui est en très légère hausse de 0,26%. Nous reviendrons sur ces résultats dans une poignée de secondes avec Mathias Desmarais qui nous attend depuis Odo BHF. A tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Moine.
C'est parti pour Good Morning Market, deuxième partie. Sans plus tarder, nous rejoignons Mathias Desmarais qui nous attend chez Odo BHF, responsable de l'activité Action. Bonjour Mathias, merci de nous accorder quelques minutes comme ça à l'ouverture, parce que j'ai conscience que c'est une séance très chargée pour vous. Beaucoup de résultats arbitrés ce matin. Mmh. Allez, commençons peut-être par Schneider Electric. C'est une belle surprise. Le titre gagne quand même quasiment 7%, 6,7% à 274€.
Oui, bonjour Etienne, effectivement. Une avalanche de résultats aujourd'hui. Schneider, très très bonne nouvelle. Les résultats du premier semestre dépassent nettement les attentes, que ce soit au niveau de la croissance organique qui ressort à plus de 14% et 16,5% seulement sur le deuxième trimestre. Donc on a une accélération sur l'année qui est portée par tous les segments finalement. Tout ce qui est data center, mais ça avec les résultats de Meta et Microsoft hier soir, on s'y attendait. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a des commandes en hausse à trois chiffres au deuxième trimestre sur cette division. On a aussi l'ensemble des autres activités qui se portent bien, que ce soit les bâtiments, l'automatisation industrielle et les infrastructures. Le résultat d'exploitation ressort là aussi largement supérieur aux attentes, de l'ordre de 7%, et ça s'est porté par une très très bonne marge. Et je dirais, si on y relève effectivement, compte tenu de ce fort premier semestre, les objectifs annuels, que ce soit en termes de croissance organique ou de résultat d'exploitation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le point médian de leur nouvel objectif se situe très clairement au-dessus des attentes, donc une réaction boursière positive normale.
À l'inverse, c'est très compliqué pour Stellantis qui revient sur ses plus bas historiques à 4,88€, moins 7,5%. Renault également qui a publié ses résultats hier perd 2,7%.
Alors sur Stellantis, ça me paraît normal, peut-être un peu sévère sur Renault, mais bon, on a vu que les constructeurs automobiles n'étaient pas à la fête dans cette période de publication, donc effectivement Stellantis qui publie en dessous des attentes, hein, le chiffre d'affaires était conforme finalement à ce qu'on pouvait attendre, et on a vu de bonnes nouvelles, notamment en provenance d'Amérique du Nord, avec les livraisons et les ventes de voitures qui étaient en forte croissance. Ceci étant, ce qui déçoit finalement, c'est la marge en Amérique du Nord, avec une marge opérationnelle à seulement 1,6%. Le consensus était à 2,6% et on pouvait espérer peut-être un peu mieux compte tenu des résultats de Ford hier. L'Europe reste également très très compliquée pour le groupe, et finalement la bonne nouvelle optique, c'était la génération de trésorerie positive, donc était repassée dans le vert à 1 milliard. Finalement, elle est un peu moins convaincante puisqu'il y a finalement des investissements plus faibles qu'attendus et des mouvements au niveau du fonds de roulement qui en fait embellissent un peu l'image. Donc même si le groupe réitère ses objectifs annuels, eh bien, je pense que la recovery sera un peu plus longue que prévu. On a toujours le post-volume mix qui pose des questions dans un environnement qui est très incertain pour les constructeurs. Voilà, donc nous on reste prudent sur cette valeur et on est beaucoup plus favorable à Renault qui pour le coup a publié des résultats de bien meilleures factures selon moi.
Qui sont néanmoins vendus, hein, ces résultats, oui. Moins 2,7% pour Renault, 21,16€, quand Stellantis est à 4,95€. Ça se passe très bien pour Vinci qui gagne plus de 4%, idem pour Bouygues et L'Oréal. On aura l'occasion de parler de L'Oréal dans un instant. C'est vrai que Vinci fait preuve d'une résilience quand même spectaculaire, parce que certes on a eu un trafic impacté dans les aéroports avec l'envolée des cours du pétrole, les autoroutes également impactées par les prix de l'essence. Néanmoins, les résultats sont là.
Ah, les résultats sont très très résilients et le résultat d'exploitation est 4% au-dessus des attentes. Hein, la croissance est portée par plusieurs activités. Vous avez quand même tout ce qui est service à l'énergie avec Vinci Énergie et Cobra qui performent très très bien. Mais effectivement, les concessions qui sont une bonne nouvelle finalement sur le premier semestre, malgré, comme vous l'avez indiqué, hein, Étienne, l'environnement géopolitique qui était pas favorable. Donc ça c'est plutôt positif. Le carnet de commandes, nous c'est ce qu'on retiendra, atteint quasiment 77 milliards d'euros, hein, c'est en hausse de 8% sur un an et c'est un niveau record et vraiment tiré par la construction, par là aussi le pôle énergie, avec une petite aussi bonne nouvelle sur l'acompte sur le dividende qui augmente légèrement. Les perspectives sont maintenues, donc on aura une croissance cette année du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel. Je dirais, s'il y a seul un petit bémol, on va dire, c'est sur la partie concession, puisqu'évidemment, dans l'environnement actuel, le groupe a été un peu plus prudent sur cette division, compte tenu du trafic aéroportuaire et aussi du trafic autoroutier.
Plus 4,3% pour Vinci à 123,35€, et Paris Cochet, son concurrent Eiffage, gagne 3% à 122,55€. L'Oréal est donc en hausse ce matin après la publication de ses résultats hier. Là aussi, une bonne surprise sur le chiffre d'affaires qui est ressorti au-delà des attentes au deuxième trimestre.
Oui, on a une croissance de l'ordre de 6,3%. Donc le consensus était à 5,6%. Donc c'est plutôt très très bien en termes de dynamique de croissance. On a une bonne accélération, mais aussi je voudrais soutenir la qualité de l'amélioration de la marge opérationnelle courante, qui est aussi un élément pour moi qui explique la réaction positive du cours. Quand on regarde les performances au second trimestre pour L'Oréal, finalement, eh bien ça se passe très très bien dans les divisions grand public et dermatologie. De manière globale, mais aussi on a sur l'activité luxe une croissance proche de 5%, et là je remets ça en perspective par rapport aux publications des acteurs du luxe qui ont été accueillis de manière disparate, on va dire, ces derniers jours, mais une croissance proche de 5% qui est une excellente performance, et je dirais l'ensemble des zones géographiques reste solide. Et les points à regarder sur les prochains trimestres, finalement, c'est la Chine, et L'Oréal indique ce matin que la Chine continue de s'améliorer. Voilà, et donc L'Oréal surperforme, je dirais, le marché. Donc globalement, des résultats de très bonnes factures et qui sont accueillis favorablement. Attention néanmoins quand même sur les prochains trimestres, les bases de comparaison pour le Real seront un peu plus compliquées.
391 euros pour le Real, plus 2%. Alors on peut pas parler de toutes les publications, mais il y a Accor hein, qui cède un peu plus d'1%. Un premier semestre bien sûr impacté par le conflit au Moyen-Orient, dans le sens où le groupe est présent au Moyen-Orient, mais vous avez un résultat quand même qui est plus ou moins conforme avec les attentes. Sanofi revoit là-haut ses prévisions, mais ça ne permet pas au titre d'être dans le vert, moins 2,2%. Et puis on a Airbus également qui perd un peu plus de 2%. Alors il faut dire que Airbus avait déjà donné beaucoup de biscuits, beaucoup d'éléments la semaine dernière avec son plan pluriannuel.
Oui, Airbus avait déjà pas mal communiqué. Donc effectivement, on va dire la performance récente du titre a été très solide. Pour autant, le T2 ressort vraiment supérieur aux attentes. Hein. On est sur un résultat opérationnel qui est 11% au-dessus des attentes, avec finalement deux tiers de la surprise positive qui s'explique du segment défense et espace. Ça, c'est pas attendu, mais on a quand même des résultats qui progressent de 90% sur cette activité. Et le dernier tiers, finalement, c'est la partie commerciale. Là aussi, avec un mix beaucoup plus favorable, et le mix est surtout ce qui est génération de monocouloirs et de longs courriers. On a une génération de trésorerie qui là aussi est très positive, et je pense que cette publication globalement quand même, malgré le léger recul ce matin, confirme l'amélioration de la visibilité. Finalement, ce qui permet aux investisseurs d'allonger leur horizon d'investissement compte tenu d'un carnet de commandes là aussi qui est plein sur les prochaines années. Donc on a une vraie bonne visibilité, une croissance à deux chiffres à attendre des résultats sur les prochaines années. Donc là aussi, je dirais que les feux sont verts pour Airbus.
Merci beaucoup Mathias Desmarais de nous avoir accompagné ce matin, responsable de l'activité Action chez Odo BHF, pour évoquer quelques-unes des grandes publications d'entreprises dans le CAC 40 entre hier soir et ce matin. 9h12, on retrouve Jean-Louis Cussac qui nous attend depuis Perceval Finance Conseil, et donc un CAC 40 qui progresse de 0,6%, 8459 points, avec donc les grosses pondérations de l'indice qui soutiennent le CAC 40, notamment Schneider Electric, Jean-Louis Cussac.
Oui, globalement c'est plutôt pas mal, hein. Il y a quand même de bonnes choses, de bonnes surprises même parfois. Le secteur des ESN se reprend, hein, les services numériques, les valeurs... avaient tellement été massacrés que ce sont des... Bon, ils se disent, après tout, pourquoi pas aller chercher un petit peu d'investissement, mais très sélectif, hein, toujours pareil. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de méfiance de la part des acteurs. Alors, le marché reste pas mal. Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte de plus? C'est-à-dire que la tendance reste haussière. Disons qu'elle n'est pas infirmée. Il n'y a pas de relais. Mais qu'est-ce que pourrait être le catalyseur? La fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la fin, on va dire, des frappes entre l'Iran et les États-Unis. Alors là, on a un retour des frappes et non pas un retour des discussions diplomatiques. Il y a rien. Bon, on ne sait pas où on va. Alors... dans cette ambiance, le marché, en fait, si vous regardez le graphique depuis des semaines, des mois, même depuis, on est au niveau de la fin mars, du fin février, pratiquement, pour en dessous, on a eu des distributions de dividendes, donc si on tient compte des dividendes, c'est plutôt pas mal, et on se maintient comme ça sur des plus hauts, avec l'idée que on va chercher des opportunités, on va chercher des actions qui pourraient amener un potentiel.
Et justement, quelles sont ces actions? Quelles sont les actions qui, pour vous, ont du potentiel?
Justement, si je le savais. Le problème, c'est que depuis maintenant des mois et des mois, il y a eu quand même des choix qui ont été faits par l'ensemble des gérants. Donc, celles qui ont du potentiel, manifestement, c'est celles qui sont quand même pas trop bas non plus, parce que si elles sont basses, c'est qu'il y a des raisons. Donc, faire des choix aujourd'hui, c'est compliqué pour tout le monde. Alors, évidemment, on a des réactions... je pense à Imerys, par exemple, c'est une valeur que j'aime bien. Alors, elle fait du +8, vous voyez, c'est tout de suite violent, les réactions. C'est-à-dire qu'on se dit, elle n'est pas trop bas, elle n'est pas trop haute, elle n'est pas non plus en train de se casser la figure, elle a stabilisé. On va chercher des dossiers comme ça, par exemple. Il y en a d'autres, hein. Bouygues avait baissé, c'est bon, les chiffres, mais tout de suite, elle prend 6%. Donc, on a beaucoup de violence sur les mouvements. Et faire des choix maintenant, c'est quand on n'a pas de visibilité sur comment les choses vont évoluer, sur les taux, surtout, sur même la politique de la Fed. Bon, là, on a eu une petite douche froide, mais enfin, rien de méchant. On ne sait pas encore vraiment, on va le savoir un peu plus ce soir, si les investissements gigantesques dans l'IA vont finir par... produire des résultats. Est-ce qu'ils vont être rentables? C'est la grande question qui aujourd'hui freine les marchés américains. Bon, globalement, moi, j'essaye d'acheter. Bon, là, je m'étais placé ce matin un peu plus bas, vers 8415, sans succès, puisque pour l'instant, on est à 8460, un truc comme ça. Donc, on est au-dessus, sur le futur, je parle. Et bon, ben voilà, on a ces bis repetita. C'est-à-dire, tous les jours, c'est à peu près la même chose. Pas de visibilité. On avance au gré des publications, au gré des nouvelles. Des marchés préparés à tout, des marchés avec des vols implicites qui ne montrent pas du tout de complaisance. On n'est pas non plus très haut, mais on est autour de 15, 14. On évolue entre 13 et 17 quand il y a du stress ou quand il y a un peu d'espoir. Et cette situation, si vous voulez, elle dure depuis maintenant extrêmement longtemps. C'est quand on pense à la reprise des frappes, on a baissé un peu, puis après, du coup, ça s'est calmé très vite. On n'a même pas fait de plus bas par rapport au jour où ils se sont retapés dessus, les États-Unis et l'Iran, c'était quoi, le 8 juillet. Donc, c'est quand même une situation globalement très particulière, qui n'est pas propice aux grandes manœuvres, voyez-vous. On est plutôt tous dans le défensif et prêts à tout entendre, voilà. Mais c'est toujours haussier sur le plan technique. Il n'y a pas d'infirmation de cette idée d'acheter et en tout cas d'aller à la chasse aux bonnes affaires.
Plus 0,6% pour le CAC 40, 8458 points. Schneider Electric, donc plus 7, Bouygues plus 6,7%, quand Vinci gagne plus de 5% après la publication des trimestriels. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, séance à suivre ce soir avec Antoine Larry-Gaudry à partir de 17h30 dans BFM Bourse. À demain, 8h40 pour Good Morning Market. Très bonne journée.
C'était votre rendez-vous avec N2F, la solution qui simplifie vraiment la gestion de vos notes de frais. Good Morning Market sur BFM Business.